Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule radio. Mon nom est Marc Bouchard et je vous souhaite la bienvenue dans votre émission d'actualité automobile, émission que vous pouvez bien entendu écouter en balado-diffusion, en la téléchargeant sur les différentes plateformes, mais que vous vous écoutez aussi probablement sur les ondes de Radio Média Plus ou de sportmedia.ca, deux radios Internet avec qui on collabore avec beaucoup de plaisir. Alors, bien sûr, évidemment, c'est une semaine chargée. Je m'excuse pour ceux qui sont déshabitués. La semaine dernière, malheureusement, je n'ai pas pu faire d'émission. Victime, comme bien des gens, de panne Internet et de panne de courant répétées. Il était difficile, vous aurez compris, d'enregistrer quelque chose. Donc, on se reprend cette semaine. Une émission assez chargée. On va essayer de varier un peu la façon de faire les choses. Pour le moment, je suis encore tout seul. Je vous préviens aussi qu'au cours des prochaines semaines, il y aura des collaborateurs qui vont s'ajouter, en tout cas au moins un collaborateur qui va s'ajouter. Il y en aura d'autres au passage, évidemment, selon les besoins. On va essayer de changer un peu la forme parce que mon ami Luc Desormeaux, le père fondateur de ce podcast automobile, est toujours derrière moi, mais malheureusement ne peut être qu'un invité occasionnel, ayant eu de grands changements dans ses fonctions. Et donc, il sera avec nous aussi à quelques reprises au cours de l'année, mais pour l'instant, bien sûr, on se débrouille tout seul. Alors, aujourd'hui, on va faire des essais, bien sûr, parce que je vais vous parler de différents essais. Le Nissan Murano, notamment. Le Buick Regale GS. Un véhicule, honnêtement, avec lequel je peux accoler le mot sportif, ce qui est un peu étonnant dans la gamme Buick, vous aurez compris. On va aussi parler de l'Audi e-tron. Un véhicule que je n'ai pas essayé autant que j'aurais voulu. Mais honnêtement, qui a été, ma foi, très agréable à essayer. Alors, on va parler de ça, bien sûr. On va aussi parler un peu d'actualité. On va parler de SEMA Show, le fameux SEMA Show qui se déroule chaque année à Las Vegas, qui est le show de toutes les extrêmes. On va parler donc de quelques modèles qui y ont été dévoilés. On va parler, bien sûr, de FCA et de Peugeot, de ce que ça veut dire. Et on va commencer parce que j'avais envie de savoir ce que vous autres, vous pensez. Écoutez, pas ce que vous pensez, plus ce que vous avez vécu. On sait, moi, je suis un maniaque de voitures, mais je ne l'ai pas toujours été. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé les automobiles, mais je n'étais pas un fan fini avec le guide de l'auto comme livre de chevet, à apprendre par cœur les fiches techniques de tout le monde. J'ai des collègues journalistes qui sont comme ça, qui ont toujours été des passionnés incroyables de voitures. Moi, c'est venu un peu sur le tard. C'est venu, entre autres, par le biais de mon ami Bertrand Godin, et de différents autres éléments, mais entre autres avec Bertrand, où j'ai commencé à m'intéresser davantage à la course automobile, parce qu'à ce moment-là, Bertrand, bon, je travaillais avec lui pour parler de ses propres courses qui se déroulaient en Europe à l'époque. C'est aussi par le biais de Bertrand un peu que j'ai pu agir comme recherchiste, entre autres, pour une émission qui s'appelait « Le Grand Test » sur les ondes de Z-Télé. Et là, bien évidemment, on parlait de technologie automobile. Alors, évidemment, j'ai eu la piqûre et bon, tout ça s'est suivi. J'ai passé par le guide de l'auto, Autonet, Auto 1, 2, 3, Autogo pour finalement faire aujourd'hui plein de trucs un peu partout, incluant ce fantastique podcast que vous écoutez religieusement chaque semaine. Ça ne m'empêche pas cependant d'avoir apprécié les voitures au fil des ans, d'avoir changé extrêmement souvent de véhicule au fil des années. Des fois, pour une bonne chose, des fois pour une moins bonne chose. Alors, ce que j'ai envie de faire, moi, c'est que je vais vous donner un peu le palmarès des voitures que j'ai eues au fil de ma vie. Et j'aimerais ça, si vous pouviez aller sur notre page Facebook, à Ça roule radio, ou même me l'envoyer par courriel à info@saroule-radio.com, je serais curieux de voir quels sont les véhicules que vous avez eus dans votre vie qui vous ont marqué, positivement ou négativement. Là, on va se dire les vraies affaires, c'est pas toutes des grandes stars, les véhicules que l'on a conduits quand on était plus jeune. Souvent, on achetait des véhicules parce qu'on n'avait pas le choix. On les achetait par budget ou parce qu'on ne connaissait pas vraiment ça puis qu'on trouvait le modèle cute, tout simplement. Alors, par exemple, moi, quand j'ai commencé à avoir une voiture, ma première vraie voiture était la voiture, en fait, qui était celle de ma conjointe de l'époque. Et c'était une Ford Pinto 1979. La magnifique Pinto qui, à l'époque, n'avait plus, si ça peut vous situer, là, c'est vraiment dans la dernière génération de la Pinto, c'est celle qui n'avait plus de cadre à la fenêtre du hayon arrière, qui était seulement une vitre. Bon, on avait éliminé un peu le problème des voitures qui explosaient à l'époque, ce qui était quand même une bonne nouvelle, mais c'est la Pinto, donc, qui a été ma première vraie voiture. J'avais auparavant là, testé quelques autres voitures, mais ce n'était pas significatif. J'avais, entre autres, été avec mon frère avait eu un Valiant 1900, oh, je ne me rappelle plus de l'année, mais qui était jaune autobus. Et bon, il y avait eu ça, il y avait eu toutes sortes d'histoires, mais bref, la première voiture que j'ai utilisée vraiment sur une base extrêmement régulière, parce que c'était ma conjointe, c'était la Ford Pinto. On s'est ensuite dirigé vers, ben, on a changé de voiture, on est toujours resté chez Ford, influencé un peu par le beau-père de l'époque. Beau-père d'ailleurs que je tiens à saluer parce qu'il est décédé un peu plus tôt cette semaine. Un homme avec qui je m'entendais super bien à l'époque. Bon, évidemment, ça fait plusieurs années, mais quand même. Lui était un fan fini de Ford, connaissait des gens chez Ford. Alors, on s'est ramassé chez Ford. Et on s'est retrouvé, imaginez-vous, avec un Ford EXP. Si vous ne connaissez pas c'est quoi un EXP, je vous invite à aller faire un peu de recherche. C'est dans le fond une espèce de escorte sport, du moins en termes de look, qui n'avait pas nécessairement le moteur sport. C'était plutôt un véhicule, en fait, un véhicule avec lequel on n'a eu que des problèmes finalement. Bon, sur lequel on a été obligé de changer les gaskets de tête à deux reprises en dedans de 2 mois. Vous aurez compris que ça a été un problème qui coûtait à l'époque une fortune et qu'on n'a pas gardé très longtemps parce qu'on l'a changé pour la Nissan Micra de première génération. Et c'est sur cette petite Nissan Micra, bon, j'avais conduit manuel à quelques reprises précédemment, mais c'est la première voiture manuelle que je possédais et je peux vous dire, sans crainte de me tromper, qu'elle était dotée d'une transmission absolument et d'un embrayage extrêmement résistant parce que j'ai tout fait avec cette voiture-là et finalement l'embrayage n'a jamais lâché. Donc, j'ai eu la Nissan Micra de première génération que j'ai remplacée ensuite par un Tempo, les magnifiques Tempo V6 qui était un 1986 de mémoire avec entre autres, ce qui me fascinait de cette voiture-là, c'était la ceinture dans la portière, ceinture automatique. Ensuite de ça, ben, écoutez, il y a eu toutes sortes de choses. Bon, il y a eu entre autres une séparation. Je me suis retrouvé avec une Chevette 79. J'ai eu au fil des ans une Honda, deux Honda Accord de 2 années différentes, une qui était une 91 et une autre qui était une 97. J'ai eu une Oldsmobile Silhouette qui était une minivan supposément de luxe. J'ai eu une Venture qui était aussi une minivan. J'ai eu un Suzuki Tracker. J'ai eu une Pontiac Firefly qui était absolument spectaculaire et qui a fini dans un accident malheureusement aux États-Unis. J'ai eu un Chevrolet Cavalier, entre autres. Et j'ai eu notamment, et ça a fait ma célébrité, la fameuse Pontiac Aztec que j'ai eu honnêtement pendant 3 ans et qui a été un véhicule avec lequel je n'ai eu aucune espèce de forme de difficulté. Bref, ça a bien été plus ou moins, mais c'est vrai que ce n'était pas très joli. Par contre, au moins, je n'avais pas celle de première génération. Donc, j'avais les arches de roue qui étaient couleur carrosserie plutôt que noir plastique. C'était quand même pas si mal que ça. Par la suite, se sont succédés différents véhicules. Bon, encore récemment, pour le moment, j'ai une Mazda 3 notamment. Je contribue avec un Dodge Durango aussi, qui sont des voitures, en fait, ce qu'on appelle des leave behind, là, des voitures qui sont d'usage occasionnel parce que vous le savez, je fais des essais réguliers et que j'ai quand même besoin de différentes voitures. Donc, je suis curieux de savoir, comme vous voyez, là, j'en ai eu au total, je calculais, là, je ne vous les ai pas tous nommés, bien entendu, là, j'en ai eu à peu près 34 différentes au fil des années, des voitures. Dont certains étaient le même modèle, là. J'ai même eu un Buick à un moment donné. Bref, j'ai eu toutes sortes de choses. Alors, je suis curieux de savoir quelles sont les voitures que vous avez possédées qui vous ont marqué au fil des ans. Moi, je vous le dis, celle qui m'a marqué le plus, c'est vraiment la Pontiac Aztec parce que je l'avais pris parce qu'elle était pratique. Oubliez le moteur qui était les vieux moteurs à pushrod là, de l'époque. C'était vraiment du côté pratique, du côté polyvalent, beaucoup d'espace de rangement, c'est ce que je souhaitais. Et ça se conduisait correctement. On avait le 3.4 là-dedans et on a fait, entre autres, je me rappelle, le tour de la Gaspésie avec la voiture complètement chargée, 2 enfants, un kit de camping, un espèce de hamburger sur le toit. Et malgré tout, on s'est quand même bien amusé. Alors, pour moi, la voiture la plus marquante de mon histoire, ça a été vraisemblablement la Pontiac Aztec. Je suis curieux de savoir quelle est la vôtre. Écrivez-moi info@saroulradio.com sur la page Facebook de Ça Roule Radio ou encore directement sur ma page Facebook à moi, Marc Bouchard. Je suis très, très curieux de savoir quelle voiture vous avez eue qui vous a marqué. On va tomber maintenant dans quelque chose d'un peu plus sérieux. Vous l'avez vu probablement, la plus grosse nouvelle de la dernière semaine, des dernières semaines dans le monde automobile, c'est la fusion confirmée entre PSA et FCA, en termes clairs, entre Peugeot et Chrysler. C'est une grande nouvelle parce que ça va permettre un développement incroyable. D'abord, ça crée le quatrième plus grand groupe d'automobiles au monde, ce qui est quand même assez spectaculaire. Parce que oui, FCA, vous le savez, c'est Fiat, c'est Chrysler, c'est Maserati, entre autres, c'est bon, Jeep notamment, Ram, bon, il y en a plein comme ça. Du côté de PSA, c'est Peugeot, c'est Citroën, c'est Opel, c'est Vauxhall et c'est DS notamment. Un peu ironique d'ailleurs de voir que Maserati, qui a déjà appartenu à Peugeot, va revenir sous Peugeot et que le dirigeant de Peugeot, qui est M. Carlos Tavares, est l'ancien président de Nissan Amérique du Nord, donc quelqu'un qui connaît très bien notre marché. Ce qui est intéressant de cette fusion-là, bien entendu, c'est que les deux compagnies trouvent chaussures à leurs pieds, je vous dirais, parce que les deux compagnies bénéficient de cette entente. Bien sûr, Peugeot avait déjà annoncé leur intention de venir vendre des véhicules en Amérique du Nord à compter de 2025-2026, ce qui devrait se rapprocher. M. Tavares a souligné que c'était possiblement en 2023, finalement, que la compagnie ferait son apparition en Amérique du Nord de façon formelle. C'est donc une bonne nouvelle pour les amateurs. D'autre part, bien sûr, ils vont profiter aussi du réseau de distribution, ils vont profiter des marques comme Jeep et Ram qui sont extrêmement fortes et qui vont très bien, hein, il faut le dire. On en vend beaucoup. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle aussi, c'est que possiblement, je dis bien possiblement, parce que c'est déjà des pourparlers qui sont dans l'air, pas nécessairement de la part des compagnies, mais de la part des gouvernements notamment, c'est qu'on va utiliser en fait les usines canadiennes de Chrysler, par exemple, bien sûr les usines américaines aussi, pour la fabrication potentielle de modèles reliés à PSA. Ce que ça veut dire, par exemple, c'est que des usines comme celle de Brampton en Ontario, où on est actuellement responsable de la fabrication de la Chrysler 300 qui est morte, là, de la Dodge Charger et de la Dodge Challenger, ben, on pourrait y ajouter d'autres modèles, ce qui est une bonne chose parce qu'on s'entend pour dire que autant j'aime le Charger et Challenger, autant il faut comprendre que ce ne sont pas des voitures qui sont vouées à un grand avenir. À terme, les voitures de performance de cette nature-là vont devoir être considérablement modifiées et je pense que la venue de PSA pourrait consolider ces usines-là. Et ce serait une excellente, excellente chose. Bien sûr, ça veut aussi dire qu'il y aura probablement des usines européennes qui vont en souffrir. Et c'est là que les pourparlers ont déjà commencé, puisque le gouvernement, entre autres en Europe, essaie de maintenir les emplois chez eux, a prévenu PSA qu'on pourrait, bon, pas faire des pressions, mais disons, insister un peu pour qu'on maintienne les emplois là-bas. Bref, c'est une situation qui ne sera pas facile, mais je pense que ça va être positif pour tout le monde. Là où ça va être extrêmement positif aussi, c'est que ça va amener, entre autres, la technologie de PSA chez FCA. Et c'est surtout au niveau des voitures électriques, vous l'aurez compris, que ça va se changer, puisque, je vous le rappelle, les voitures électriques actuellement chez FCA, ce n'est pas nécessairement une priorité, bien au contraire, mais on n'avait pas nécessairement les moyens d'investir les millions et les milliards de dollars nécessaires pour y arriver. On va utiliser la technologie, la recherche et développement qui a déjà été faite du côté de chez PSA, de chez Peugeot notamment. On arrive avec des voitures qui sont déjà fonctionnelles, qui sont déjà extrêmement populaires sur le marché européen. Donc, on pourrait exporter cette technologie-là, ce qui pourrait augmenter le nombre de véhicules disponibles chez nous. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle pour l'ensemble du monde de l'automobile et je pense que ça vient consolider surtout la présence de ces deux compagnies-là, globalement, c'est-à-dire que bien sûr, Jeep et Ram sont peut-être un peu moins populaires. Jeep est quand même populaire en Europe, hein, il faut le dire, mais Ram un peu moins. Par contre, bien sûr, on va pouvoir maximiser l'usage de Peugeot chez nous, et ça, je pense que c'est une excellente, excellente nouvelle. Écoutez, cette semaine se déroulait aussi le fameux SEMA Show à Las Vegas. Je ne vous ferai pas la tournée complète des véhicules qui y ont été dévoilés. Vous le savez, le SEMA Show, c'est d'abord ce qu'on appelle un trade show. Quand on parle de trade show, c'est vraiment une foire corporative où on retrouve là-bas là, bon, des mécaniciens, des fabricants de pièces. Bon, bien sûr, mais les manufacturiers utilisent le CIMA Show aussi pour propulser leurs nouveaux modèles, ou en tout cas, pour prendre des modèles et les présenter avec, je dirais, une twist un peu particulière. C'est ce qui se fait chaque année. L'année dernière, entre autres, Mopar avait profité du CIMA Show pour présenter son fameux moteur Elephant de 1000 chevaux. Cette année, ben, on a fait la même chose avec un Charger de 1525 chevaux, donc c'est un peu fou. Mais il y a eu des dévoilements qui ont, je pense, marqué beaucoup aussi l'imaginaire. C'est le cas, entre autres, du côté de chez Ford, où on a présenté la Ford Mustang Lithium. Qu'est-ce que c'est la Lithium? C'est une Ford Mustang électrique qui a été faite en collaboration avec Webasto. Webasto, c'est une compagnie allemande. Et l'idée, en fait, c'est que c'est un prototype. Hein? Attendez-vous pas à voir apparaître ce genre de véhicule-là sur nos routes. Là. Mais la Mustang Lithium, c'est une voiture qui est montée sur une architecture de 800 volts, un peu à l'image, en fait, de ce que Porsche a fait avec sa Taycan. C'est un véhicule, écoutez, qui produit 900 chevaux, 1000 livres-pieds de couple et qui a vraiment des moteurs électriques et une configuration de batterie et un système particulier. C'est ça qu'on voulait tester. C'est la raison pour laquelle on l'a présenté avec Webasto. La particularité, cependant, c'est qu'elle est dotée d'une boîte manuelle et non pas d'une boîte automatique, comme c'est souvent le cas. C'est la première fois, en fait, qu'un véhicule électrique est doté d'une boîte 6 vitesses manuelle. La question, c'est est-ce que ça a la moindre utilité? La réponse, c'est probablement pas, parce qu'on ne sait pas exactement comment c'est relié au moteur. Est-ce qu'on peut vraiment mettre un embrayage sur un moteur électrique? Bref, il y a toutes sortes de questions qui se posent, mais on arrive donc avec une boîte manuelle. Ce qui est un peu amusant, parce qu'on a présenté cette boîte manuelle au même moment où on avait une étude aux États-Unis qui démontrait que les boîtes manuelles étaient rendues moins populaires que les voitures électriques elles-mêmes. Et Dieu sait pourtant que ce n'est pas si populaire. Là, on parle d'en bas de 2% quand même de voitures électriques, mais il semble que les boîtes manuelles soient encore moins populaires. Alors, ça vous donne une idée là, que c'est assez particulier. Outre la fameuse Webasto, la Mustang Lithium, Nissan a aussi dévoilé des voitures assez particulières, entre autres le Nissan Frontier Desert Runner, qui est un monstre pour lequel on a remplacé le moteur V6 par un 5,6 litres V8 du Titan, entre autres. On parle d'un moteur d'un modèle qui fait 600 chevaux, 700 livres-pieds de couple, surélevé pour aller vraiment dans le désert. On a vraiment... C'est fait, en fait, c'est un véhicule qui a été pensé pour la course dans le désert et c'est ce que Nissan a proposé avec le Desert Runner. On a aussi proposé quelque chose d'autre pour la course. C'est une 370Z version Time Attack. Time Attack, vous savez, ce sont des trucs, des courses réelles qu'il y a en Europe, entre autres. Et on parle ici d'une Nissan 370Z qui a été un peu pimpée. C'est-à-dire qu'elle est maintenant biturbo sur le V6 3.7 qu'il y a généralement sous le capot. 750 chevaux, rien de moins. Mais ce qui est particulier, en fait, c'est que c'est une voiture qu'on va effectivement supposer voir sur les circuits Time Attack européens. On a aussi présenté la Nissan Kicks Street Sport, qui est en fait une Kicks un peu modifiée, et un Titan 2020. La beauté du Titan 2020, en fait, c'est qu'on le fait, mais avec des accessoires que l'on peut acheter directement au catalogue. Et ça, je pense que c'est une bonne idée parce que ça démontre effectivement ce que l'on est capable de faire avec ce qu'il y a en disponibilité chez les concessionnaires. Bon, il y en a eu d'autres dévoilements. Un dont je ne pourrais passer sous silence, c'est celui de la Toyota Supra. On a utilisé la Supra et on l'a décliné dans 5 versions différentes. Bon, je vais vous éviter là, les détails des 5 versions. Il y en a quand même 2 que je vais vous parler. La version Heritage, en fait, l'édition Heritage Edition, qui est une version de 500 chevaux, qui va être... Bon, bien sûr, on a changé toutes sortes d'éléments à l'intérieur. On a changé la carrosserie, on a changé des éléments mécaniques. Et finalement, on a présenté aussi une version GT4. La GT4, on l'avait vue, elle, au salon de Genève au printemps. Elle a déjà couru dans les 24 heures du Nürburgring, mais cette version-là de 429 chevaux, la particularité de cette Supra de 429 chevaux, c'est qu'elle va désormais être on va désormais être capable de la commander, si vous avez bien entendu, des velléités d'aller faire de la course avec la Supra. Vous pouvez la commander directement de l'usine. Donc, c'est en soi une excellente chose parce que ça va permettre, bien sûr, d'avoir une voiture qui va être efficace. Toujours dans la série des nouvelles, vous savez, le 21 novembre prochain, Elon Musk a confirmé qu'il présenterait son fameux Cybertruck, son fameux camion pick-up. C'est particulier parce qu'il va le présenter dans les studios, pas les studios, mais dans les usines, si vous voulez, de SpaceX, l'endroit où il fabrique les fusées. Et en même temps, le 21 novembre, en même temps que le Salon de l'Auto de Los Angeles. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. On dit qu'il va avoir plus de 600 km d'autonomie et moins de 50 000 $ US à l'achat. Je sais que vous avez, il y en a des fans de Tesla. Moi, j'ai un doute toujours quand Tesla nous lance des histoires comme celle-là. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Dans les autres nouvelles, si vous avez une folle envie de me faire un cadeau, Aston Martin a confirmé la venue, bien sûr, de son DBX, le VUS, mais on a présenté des photos de l'intérieur et on a surtout confirmé que le prix était supérieur à 200 000 $. Alors, si vous voulez commencer à ramasser vos sous, sous le capot, un moteur V8 4 litres, qu'on ramasse de chez Mercedes, 542 chevaux, 516 livres-pieds de couple, ça risque d'être fort intéressant. Et enfin, une dernière petite nouvelle, parce que celle-là, je la trouve vraiment impressionnante, la Hyundai Veloster N, qui a remporté le titre de voiture sportive de l'année par le magazine Road & Track. Road & Track, vous savez, fait souvent des évaluations de voitures comme celle-là. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont choisi la Veloster N. Mais ce qui m'étonne, en fait, c'est de voir contre qui elle était en lutte. Pour vous donner une liste, là, il y avait la Toyota Supra, la Lexus RCF Track Edition, la Lotus Evora GT, la McLaren 600 LT Spider, la Lamborghini Huracan Evo, la BMW M2 Competition, la Chevrolet Corvette Stingray, la Porsche 911 Carrera S, la Nissan GT-R Nismo et la Mazda MX-5 Miata RF Club. Bon, vous voyez qu'on est dans les voitures qui ont des performances absolument délirantes parce que Road & Track n'a pas voulu se baser sur la performance à l'état pur. Ce qu'ils disent, en fait, c'est qu'ils ont voulu couronner la voiture qui donnait le plus de feeling et le plus d'émotion et qui correspondait le mieux à l'esprit de la marque pour laquelle elle était développée. Et on dit que c'est la Hyundai Veloster N, une voiture qui est à peu près 35 000 $ chez nous. Écoutez, j'ai conduit la Veloster N. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir avec la Veloster N. De là à dire que c'est la voiture sportive de l'année devant tout ça. Écoutez, si vous me dites que tu as le choix de n'importe quelle auto sportive, je ne suis pas convaincu que c'est la Veloster N que je vais aller chercher en premier, mais quand même, c'est un bel honneur pour Veloster, pour la Veloster, et je trouve ça quand même intéressant. Un dernier mot en fait pour vous dire aussi qu'il y a eu une conférence de presse un peu plus tôt cette semaine, une compagnie qui s'appelle Europe Auto, ça s'est fait à Montréal. C'est une voiture, c'est une compagnie qui fait de la location et du achat-rachat en Europe lors des voyages. La beauté de la chose, c'est que, bon, ils ont maintenant opté pour, entre autres, ils jouent beaucoup sur la carte de l'écologie. Entre autres, ils vont planter un arbre par voiture louée. La liste complète des émissions polluantes est sur le site de la compagnie. Mais ce qui a surtout retenu mon attention, c'est qu'on a vraiment pris un tournant aussi au niveau des voitures électriques. Entre autres, il y a la capacité de louer la Peugeot 208, la E208, qui est une voiture 100% électrique. On offre des motorisations hybrides aussi, et ce n'est pas du tout électrique, mais c'est vraiment le haut de gamme. On offre aussi les DS. DS, ben, c'est l'ancienne division de Citroën qui appartient à PSA et maintenant à FCA. Donc, si jamais vous faites un voyage en Europe, je pense que c'est une option intéressante. Je ne connais pas les prix, je trouvais juste l'idée intéressante, en fait, que ce genre de véhicule-là soit disponible pour la location. Alors voilà, ça c'est la première partie de notre émission. On va faire une courte pause et après la pause, je vous reviens avec les essais que j'ai fait, les essais de la semaine, notamment celui de la Audi e-tron, un véhicule 100% électrique. Alors, on est de retour après cette courte pause et c'est le moment de nos essais de la semaine. Avant de se lancer dans les essais de voitures, je pense que c'est encore important de parler de pneus d'hiver. Je ne sais pas à quel moment vous écoutez cette émission-là. Moi, quand je l'enregistre, il y a eu une première petite neige et ça a créé toutes sortes de catastrophes dans la région de Montréal, bien sûr. Plusieurs personnes n'avaient pas leurs pneus d'hiver. faut savoir que les pneus d'hiver, je vous le répète, on vous l'a dit, on vous l'a répété, ce n'est pas bon que pour la neige. C'est bon à partir du moment où il fait 7 degrés à l'extérieur, parce que sinon, le caoutchouc de vos pneus devient trop dur et c'est littéralement comme si vous rouliez sur des jantes de bois. Ça glisse, ça devient de véritables patins. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée non plus de vérifier uniquement vos pneus en fonction du petit logo du flocon sur le côté. On vous a déjà prévenu, on vous prévenait l'année dernière, on va recommencer à vous le prévenir cette année. Le flocon, c'est un standard minimum pour l'obtention du titre de pneu d'hiver. C'est-à-dire que ce fameux flocon, il est octroyé à n'importe quel pneu qui remplit. Bon, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un modèle de pneu 4 saisons, un modèle donné de pneu 4 saisons, et on le remet tout simplement, on le compare en théorie à ce que vous faites avec votre pneu d'hiver. Et si votre pneu d'hiver fait 10 % de mieux, ben à ce moment-là, on a l'autorisation de mettre le flocon. Le problème, c'est qu'il n'y a personne qui fait ces vérifications-là nécessairement sur tous les pneus. C'est-à-dire que c'est autorégulé. C'est chaque compagnie qui fait ses propres tests et Transport Canada peut en prendre un, quelques-uns de temps en temps, ici et là. Donc, évidemment, vous aurez compris que ce n'est pas nécessairement la meilleure façon de faire les choses. Je pense que c'est vraiment, vraiment à faire attention. Surveillez vos pneus. Surveillez ce qui s'est fait, voyez comment on va utiliser, si l'on veut, ces pneus-là. Est-ce que vos pneus sont bons pour la glace? Est-ce qu'ils sont bons pour la neige? C'est à vous de le savoir. Donc, je vous invite fortement à être extrêmement prudent. Prudence, d'ailleurs, que je vais exercer moi-même au cours des prochaines semaines parce que, Yokohama a lancé cette année deux nouveaux pneus, le Iceguard IG53 et le Iceguard G075. Le IG53 est un pneu pour des berlines. Le Iceguard G075 ça est davantage tourné vers les VUS. Dans mon cas, il va être monté sur un VUS, un Durango, qui date de quelques années, mais dont on sert entre autres pour transporter plein de trucs et qui devrait donc permettre de tester considérablement bien ce pneu-là au cours des prochains mois. Ce sont considérés des pneus, des pneus pas haut de gamme, mais des pneus de bonne gamme. Ce ne sont pas des pneus d'entrée de gamme. Ce sont des pneus vraiment de bonne qualité, là, des pneus qui trônent au sommet de beaucoup de classements, même s'ils sont nouveaux. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Ce qu'on nous dit, en fait, du côté de Yokohama, c'est qu'on a, entre autres, utilisé un composé caoutchouté qui comporte d'abord plus d'éléments, donc qui vont mieux répartir la chaleur et surtout qui sont de haute densité. Donc, ce composé-là étant renforcé, ça devrait permettre une meilleure durabilité, donc moins d'usure prématurée, mais en même temps, ça permet d'avoir les fameux blocs caoutchoutés, là, les espèces de dessins dans la semelle, beaucoup plus stables, beaucoup plus rigides, donc d'assurer un meilleur contact avec la chaussée et évidemment, plus de contact étant équivaut à plus d'adhérence. Évidemment, sans pour autant avoir une usure supplémentaire. On dit aussi que la façon dont les pneus ont été dessinés, ils devraient considérablement améliorer la consommation d'essence par rapport à des pneus d'hiver traditionnels, puisque le dessin de la semelle a été conçu en conséquence, et que c'est surtout, en fait, la façon dont le composite à l'intérieur a été fabriqué. On dit que ça limite la chaleur et la façon dont la chaleur se répand dans la semelle. On sait que c'est la chaleur qui est souvent le problème au niveau de l'usure notamment. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. J'ai bien hâte de voir qu'on puisse l'essayer de façon plus efficace. On les fait installer cette semaine. Ce sont des pneus, c'est quand même des pneus de bonne dimension, là, des 2,65-17 pouces. C'est quand même des pneus imposants sur un gros Durango. Donc, on aura l'occasion de l'essayer, bien entendu, sur des chaussées plus sèches, comme c'est le cas actuellement. Donc, on va avoir une bonne idée du niveau sonore. On va avoir une bonne idée aussi de comment ils vont se comporter dans des conditions particulières. Et on aura l'occasion de l'essayer, bien entendu, au cours de l'hiver, au moment où il y aura des chutes de neige plus importantes. Et donc, on verra de quelle façon il va pouvoir s'en sortir parce que, bien entendu, le Durango est un véhicule assez lourd, assez pesant, qui a besoin d'une extrême adhérence. Donc, c'est le Yokohama G075 que je vais installer sur un Durango d'il y a quelques années pour en vérifier la qualité au cours des prochaines semaines. On s'en reparlera au cours de l'année à quelques reprises. J'aurai l'occasion de faire différents éléments. Je vous rappelle que Yokohama a aussi sorti le IG-53 au cours de la même période. La particularité du IG-53, c'est qu'on a réussi à trouver un espèce, ce qu'on appelle un composé super absorbant. C'est-à-dire que la façon dont c'est fait, ça absorbe l'eau. Comme on le sait, ce qui provoque en fait le dérapage, c'est du micro-accloaplanage. C'est-à-dire que quand le pneu va toucher au sol, sur la glace notamment, il se forme une pellicule d'eau et c'est cette pellicule d'eau-là qui fait flotter le véhicule, qui crée donc une espèce d'aquaplanage. Or, on dit que le IG-53 a un composé qui permet d'absorber ce surplus-là, donc d'améliorer le contact. Écoutez, ça, je vais être obligé d'y croire sur parole parce qu'évidemment, je n'ai pas l'occasion de les essayer. Mais ce sont des pneus qui, à ce moment-là, s'adressent à des véhicules passagers plutôt qu'à des VUS. Alors moi, je vais me contenter du VUS. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner, en fait, au cours des prochaines semaines. On va maintenant passer aux essais de la semaine. Des essais qui sont assez variés, je vous dirais, puisqu'il y a trois véhicules vraiment totalement différents dont j'ai fait l'essai et dont j'aimerais vous parler. Le premier, bien, c'est le Buick Regal GS. Pourquoi je vous parle du Buick Regal GS? Bien, j'ai eu l'occasion de l'essayer. Je l'avais essayé au lancement, en fait, et j'avais été beaucoup impressionné de ce véhicule-là parce que je trouvais qu'il était bien équilibré, qu'il était vraiment bien pensé, bien monté et qu'il avait vraiment une connotation très, comment je pourrais dire, très sportive. Et oui, avec une Buick, croyez-le ou non. Écoutez, c'est sûr que c'est un V6 de 310 chevaux. C'est la particularité, cependant, c'est que c'est une Buick Regal. Hein. Oui, bien sûr, c'est la GS, la Grand Sport, avec bon, différents éléments sportifs, plus sportifs un peu, mais c'est d'abord une Opel Insignia. C'est donc un châssis européen et on le sent quand on conduit la voiture. Ça donne une conduite qui est vraiment rigide, qui est vraiment stable, qui est capable de nous permettre un peu de conduite dynamique, bien entendu. Il n'y a pas que ça, vous l'aurez compris. Les 310 chevaux, 282 livres-pieds de couple, boîte automatique, 9 rapports de série. Des sièges sport qui vraiment offrent un bon confort, une bonne stabilité quand on est placé à l'intérieur. Et Dieu sait qu'avec ma taille de jeune homme qui s'est un peu renforcée au fil des ans, j'ai beaucoup apprécié cet équivalent-là. On a des suspensions adaptatives et un rouage intégral, ainsi que des freins Brembo, c'est-à-dire que ce sont vraiment des freins qui, on insiste. Bref, ça freine en tabarouette. Ceci étant dit, c'est une voiture aussi qui a un beau style, qui a vraiment un beau look. Peu importe la déclinaison, là, moi je vous parle de la GS, mais c'est vrai dans tous les cas. La GS qui est très profilée, en fait, la Buick Regal, ça a le défaut, évidemment, de limiter un peu l'espace aux places arrière. C'est un véhicule qui a de la gueule, qui a du style et qui est beaucoup plus sportif que ce à quoi on pourrait s'attendre. Écoutez, là je vous parle de la GS, moi je vous dirais que ça s'étend à tous les éléments de la Regal. La Buick Regal est probablement la meilleure Buick actuellement sur le marché. C'est une voiture qui est vraiment le fun à conduire, même avec le petit moteur 4 cylindres de 2 litres turbo. Bien sûr, la GS est un peu plus oomph. J'aurais aimé un son de moteur peut-être un peu plus oomph aussi pour aller avec, mais bien entendu, on a voulu miser d'abord sur le confort parce que ça demeure une Buick. Buick qui est quand même bien équipée. Hein? J'en ai pas parlé, là, mais bon, y a un système, entre autres, multimédia qui est quand même intéressant. Les systèmes de sécurité embarqués, connectivité Android Auto, Apple CarPlay, la borne Wi-Fi quand on est abonné. Bref, on a vraiment le système complet de cette voiture-là. Ce qui n'est pas une mauvaise chose parce que vraiment, on parle de quelque chose d'assez sérieux et on parle d'une voiture qui est confortable et qui est capable d'être, je vous dirais, à la fois une berline de ville correcte, je vous dirais, et à la fois une berline plus sportive, plus dynamique. 45 000 $ c'est le prix de la GS à traction intégrale, puisqu'elles sont toutes traction intégrale. Alors, c'est quand même un véhicule qui est fort intéressant, je vous le dis. Moi, j'ai été bien étonné. Je l'avais essayé, comme je vous l'ai dit, au lancement il y a quelques mois, quelques années, même ça fait un an ou deux. Un an, je pense. On est allé l'essayer en Colombie-Britannique. On vous en avait d'ailleurs parlé à ce moment-là. Et on parle vraiment d'une voiture que j'ai essayée pendant une semaine et avec laquelle je me suis beaucoup amusé. Parmi les autres essais que j'ai fait, une voiture qui est vraiment dans un tout autre monde, c'est celui du Nissan Murano 2019-2020, parce qu'en fait, ils n'ont pas été modifiés du tout. Là. Murano que j'avais essayé l'année passée. Bon, il faut que je vous raconte mon histoire d'amour avec le Murano. Quand ils ont sorti C'est un véhicule qui avait vraiment une silhouette unique, une silhouette qui lui était très, très particulière. C'est entre autres une silhouette qui était un peu sexy. Bon, j'avais écrit un article sur lequel je vantais considérablement le sex appeal de ce véhicule-là. Ma femme m'en veut toujours parce qu'elle me dit toujours, tu n'as jamais écrit de texte comme ça sur moi. Bon, vous me direz qu'on n'a pas les mêmes. Évidemment, si j'écris un texte sur ma femme dans le journal, ça n'aura pas le même impact. Bref. Effectivement, elle avait raison, j'adorais beaucoup la silhouette du premier Murano. Quand on a renouvelé ce Murano-là, j'étais un peu réticent au départ parce que je me disais, on avait tellement bien réussi du point de vue design la première génération que la deuxième, c'était un petit peu risqué. Ah, finalement, on a très bien fait. C'était il y a une couple d'années, mais encore aujourd'hui, le Nissan Murano a une silhouette qui est assez unique, qui est vraiment particulier parce qu'il reprend bien entendu les éléments de design caractéristique de Nissan, là, le fameux capot, pas le capot, mais la calandre, les phares boomerang à l'avant. Mais ce qui est vraiment impressionnant, mais pas impressionnant, mais amusant et intéressant du Murano, c'est le toit, ce qu'on appelle le toit flottant. Pourquoi? Parce que si vous regardez le pilier C, donc le dernier pilier à l'arrière, il est noir, alors que le toit est de couleur carrosserie, et bien sûr, la carrosserie en bas est aussi couleur carrosserie. Donc, on a vraiment l'impression qu'il flotte et ça lui donne un élément dynamique vraiment fort intéressant. Écoutez, il n'y a pas de grands changements qui ont été faits au fil des ans depuis le lancement, des nouvelles prises, des nouvelles calandres, des phares qui ont été modifiés au fil des ans, mais rien de majeur. On a ajouté des éléments de sécurité, surtout, je pense que c'était ça qui était vraiment l'élément clé, parce qu'on le sait chez Nissan, on parle de le fameux bouclier 360, là, qui réunit toutes sortes de différents systèmes de sécurité électronique embarqués, régulateurs de vitesse et espèces de maintien en voie et tout ça. Donc, il n'y a rien de majeur comme changement qui a été fait outre ça. Sous le capot, V6 3,5 litres, un moteur qui est extrêmement fiable, qui va très bien, 260 chevaux, 240 livres-pieds de couple. Un beau VUS, un VUS le fun, un VUS agréable à conduire, qui n'est pas très. En fait, non, c'est pas vrai. Je retire. Il est spacieux pour les occupants. Est considérablement moins spacieux pour les bagages, où vraiment, là, il n'y a pas beaucoup de place. C'est même le plus petit, ou en tout cas, un des plus petits dans sa catégorie. Donc, évidemment, ça, c'est peut-être le plus grand regret qu'on peut avoir. Ceci étant dit, c'est quand même un véhicule qui est fort intéressant à conduire, qui a un habitacle, bon, qui mériterait d'être repensé, mais c'est le cas beaucoup chez Nissan. On s'en vient d'ailleurs avec des nouveaux systèmes multimédia améliorés. Pour le moment, c'est un habitacle qui n'est pas laid, qui est quand même intéressant, mais on sent qu'il n'est pas tout à fait, qu'il est peut-être un peu plus vieux que les autres. Malgré tout, c'est rien de majeur, c'est rien de tragique. C'est vraiment, vraiment un véhicule que moi, j'ai beaucoup aimé. Évidemment, traction intégrale, on l'avait essayé l'hiver dernier dans la région de Notre-Dame-de-la-Mercie, à Mécaglisse, entre autres, et dans le coin du Mont-Tremblant. C'est un véhicule qui se comporte fort bien. Un véhicule qui, bien entendu, vous l'aurez compris, surtout considéré comme un VUS urbain. Ce n'est pas le genre de véhicule avec lequel vous allez aller faire de la route extrême, mais c'est un véhicule qui va vous conduire de façon confortable et agréable un peu partout. La plus grande qualité probablement de ce véhicule-là, c'est l'insonorisation de l'habitacle. Honnêtement, c'est un véhicule qui est hyper bien insonorisé. Quand vous êtes à l'intérieur, vous n'entendez absolument rien de ce qui se passe à l'extérieur. C'est honnêtement un véhicule avec lequel j'ai pris plaisir à passer quelques jours. Je vous l'ai dit, jamais la première génération. J'avais conduit celui-là que j'avais beaucoup aimé, évidemment, avec quelques bémols. Consommation est un peu élevée. C'est quand même un moteur qui est assez gourmand. Mais dans l'ensemble, c'est un véhicule qui est vraiment agréable. Un véhicule qui a un style assez particulier aussi. Alors, c'est un véhicule qui vaut la peine d'être regardé, bien que, comme je vous dis, il est un peu vieillissant à certains points de vue, notamment au niveau de l'habitacle. Vieillissant, ce n'est pas le mot qui s'applique à mon prochain essai, vous l'aurez compris, puisqu'il s'agit de l'Audi e-tron. Audi e-tron, et là, vous aurez compris que je vais le prononcer à l'anglaise tout le temps parce que les jeux de mots sont assez faciles et on n'aime pas le nom personne, je pense que c'est assez clair. L'Audi e-tron, c'est la version électrique de chez Audi. C'est le premier des véhicules électriques de la gamme. Et c'est honnêtement un véhicule qui m'a beaucoup plu. Oui, c'est un VUS de luxe. Écoutez, on parle de luxe, là. On parle d'un prix de 98 000 $ ou à peu près, plus les différentes options. C'est un véhicule qui est vraiment fait pour se battre avec les Tesla Model X et le Jaguar I-Pace, entre autres, mais qui a une particularité qui est celui d'être un vrai Audi. Et là, je m'explique. Le Jaguar I-Pace, je suis tombé en amour avec ce véhicule-là. Je trouve que son style est absolument dévastateur. Je trouve que sa conduite est sportive. Et quand on le conduit, on ressent une certaine légèreté. Un peu, en fait, comme si on conduisait une Jaguar F-Type haute sur pattes. Okay? Donc, on n'est pas dans le VUS quand on est chez Jaguar avec le I-Pace. On est vraiment dans quelque chose de plus éthéré comme conduite, je dirais, là, de vraiment plus, pas sportif, parce que je n'aime pas nécessairement ce terme-là, mais disons plus léger. Quand on arrive du côté du Audi e-tron, on embarque vraiment dans quelque chose de particulier, qui est un véhicule beaucoup plus assis, beaucoup plus en lien avec ce qui se passe chez Audi. C'est un véhicule qui se situe quelque part entre le Q5 et le Q7 et qui donne un peu le même genre de sensation de conduite que ces VUS donnent. Évidemment, vous aurez compris cependant qu'il y a beaucoup plus de dynamisme au niveau de la voiture elle-même. C'est une voiture électrique avec un double moteur électrique, donc une version rouage intégral, très dynamique. Écoutez, vous le savez, conduire un véhicule électrique, le couple est disponible dès l'accélération, et on le sent vraiment avec ce Audi. Évidemment, il y a une certaine lourdeur. Par contre, l'avantage, c'est qu'on a placé les batteries, bien sûr, dans le plancher. Batterie de 95 kW, ce qui est quand même énorme. Ça nous permet, en tout cas, un 0-100 en 5,7 secondes si on déclenche le launch control, le fameux départ canon. Vous en conviendrez, est tout à fait respectable pour une voiture qui fait à peu près 2500 kg. Donc, un véhicule qui est quand même très pesant. On ne ressent pas toujours cette lourdeur-là. Par contre, on ressent la solidité du châssis et la solidité de la bête quand on la roule, peu importe les conditions. Et ça, c'est vraiment la différence. Je vous parlais du Jaguar I-Pace, qui est à peu près léger, qui donne cette sensation de légèreté. On a moins cette sensation-là, évidemment, avec le Audi. C'est quand même absolument intéressant à conduire parce que la puissance du moteur est dynamique et ça nous donne vraiment un ensemble bien équilibré, bien polyvalent. L'autonomie, c'est pas terrible. Écoutez, on parle de 400 km à peu près sur le standard WLTP, donc évidemment pas mal moins chez nous. Batterie de 95 kWh qui prend 10 heures de recharge si on la charge sur une borne traditionnelle à la maison. Évidemment, on peut aller sur une borne de recharge rapide, elle peut accepter jusqu'à 150 kW et à ce moment-là, ben, ça va recharger de 80% en 30 minutes. C'est un peu l'équivalent de ce qui se fait ailleurs avec une telle architecture. Bien sûr, rouage électronique, rouage intégral électronique du e-tron Quattro. C'est plus rapide, plus efficace que ce qu'on fait normalement avec un moteur thermique. Ça permet donc des performances très différentes. Et bien entendu, le freinage qui, lui, est tout à fait efficace. On peut évidemment doser la régénération, comme c'est souvent le cas, mais vraiment, c'est un freinage qui est radical quand on appuie fortement sur la pédale. À l'intérieur, il faut que je vous parle du confort de ce véhicule-là parce que ça fait tellement partie des affaires intéressantes. D'abord, c'est assez grand, un peu plus petit qu'un Q7, un peu plus grand qu'un Q5, je vous l'ai dit. Habitacle spacieux, c'est haut. L'espace pour les jambes, tant à l'avant qu'à l'arrière, c'est grand. Bon, évidemment, le plancher est presque plat, donc ça nous permet d'avoir plus d'espace. Et écoutez, c'est vraiment particulier parce que il y a des écrans partout, mais pas partout, mais il y a les fameux écrans tactiles en hauteur au centre de la console, bien sûr. Et ça, bon, il y a un petit côté haptique, là, donc on sent quand on y touche, ça nous permet d'avoir un contrôle. On le retrouve sur d'autres modèles Audi, mais notamment là-dessus. Je dois vous parler aussi du levier de transmission qui est en fait un bouton que l'on pousse du pouce, tout simplement. Donc, c'est assez particulier. Allez voir les photos, vous allez comprendre ce que je veux dire. Il y a une grosse poignée, mais on ne bouge pas la poignée. C'est vraiment la seule petite poignée argentée qui sert de transmission. Et il y a bien entendu le fameux cockpit virtuel, qui est le cockpit que l'on peut adapter. En fait, c'est l'affichage que l'on peut adapter directement devant les yeux du conducteur. C'est le cas de toutes les Audi. C'est le cas où on peut changer littéralement l'affichage, avoir un affichage satellite, système de navigation et tout. Bref, c'est vraiment un véhicule qui est très luxueux, qui est très confortable et qui est très efficace dans sa conduite. Je n'ai fait que quelques kilomètres à son volant. J'aurais apprécié pouvoir le tester davantage. J'ose espérer que j'en aurai l'occasion bientôt. On a fait, bon, j'ai fait de l'autoroute, j'ai fait de la ville. Bien sûr, le silence de roulement est impressionnant, comme dans tous les véhicules électriques. On entend un petit bruit de turbine qui n'est pas dérangeant loin de là. Parfois, on aimerait avoir un peu plus, mais bon, vous comprenez que ça fait partie de la personnalité même du véhicule électrique. Bref, c'est vraiment un véhicule qui vaut le détour, honnêtement, si vous êtes dans le marché des VUS de luxe électriques. Il manque un peu d'autonomie, mais il se compare à ce qui se fait définitivement du côté du I-Pace. C'est un véhicule qui, ma foi, devrait connaître un certain succès, même s'il est un peu dispendieux, 100 000 $ ou à peu près. Évidemment, ça s'adresse à une clientèle assez limitée. Je ne pense pas que ce soit non plus un véhicule qui est conçu pour le volume. On va cependant entendre d'autres versions e-tron, donc d'autres versions électriques de chez Audi. Mais pour le moment, c'est la première et c'est, ma foi, une belle réussite. Il faut aussi aimer le style, je vous le dis, hein, parce qu'à l'extérieur, c'est vraiment un Audi, excepté à l'exception de la calandre qui est celle d'un véhicule électrique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grille, il y a pas, on est là vraiment pour laisser passer, là, pas pour bloquer l'air, mais littéralement, là, donc pour assurer une meilleure, un peu moins de friction, en fait, quand on roule avec la voiture. Alors vraiment, c'est une belle réussite que ce Audi e-tron. Je pense que c'est, en tout cas, j'étais bien content de l'essayer. J'espère, je vous le répète, que j'aurai l'occasion de l'essayer plus longuement, être en mesure de vous en parler plus longuement et que j'aurai l'occasion de l'essayer aussi en hiver. Parce que mon essai du I-Pace, le dernier, c'était fait en janvier dernier, dans des conditions hivernales assez froides, il faut le rappeler, et ce n'était pas nécessairement une bonne idée parce qu'on avait perdu énormément d'autonomie en termes de, évidemment, parce qu'il avait fait moins 20 et qu'on avait gelé. Donc, je serais curieux de voir comment va se comporter l'autonomie de ce Audi e-tron. Alors, si vous avez des questions, ça met fin à notre émission, bien sûr. Si vous avez des questions, je vous invite à me les faire parvenir sur ma page Facebook. Vous pouvez me suivre sur Twitter aussi, Marc souligné Bouchard. Sur Instagram, Bouchard souligné Marc. Sinon, info@saroulradio.com. J'attends vos questions, j'attends vos commentaires. J'attends de savoir quelles autos vous avez conduites dans votre vie et quelle a été celle qui vous a marqué le plus. Vous pouvez nous écouter, bien entendu, sur sportradio.ca, sur Radio Média Plus ou sur les plateformes, là, Spotify, Google, Apple, bien sûr, où on est disponible. On vous invite à vous abonner à nous sur Spotify et à nous faire un petit coucou de temps en temps si vous avez des questions. Bien sûr, aussi sur la page Facebook de Ça roule Radio, où vous pouvez, bien sûr, nous laisser vos commentaires. Alors, c'était Marc Bouchard. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Et je vous dis, soyez prudents. La neige s'en vient. Pensez à vos pneus d'hiver. Et on se reparle la semaine prochaine.